Et ce n'est pas votre ville natale. Je sais pour certains c'est le cas, mais pour certains c'est pas le cas. Oui, vous avez la foi en Christ, c'est ça, c'est certain, et cela est un réconfort pour vous en quelque sorte. Mais votre parcours jusque-là a vu que ce n'est pas autant que cette foi vous a protégé des soucis et des difficultés dans la vie. Vous avez parfois difficile de trouver du travail. Vous avez parfois du stress au travail, pression de la part des uns et des autres. Parfois, vos finances sont bien serrées. Vous demandez ce que vous allez faire. Et votre foi, en plus, est parfois dénigrée dans cette société de plus en plus laïque. Mais il faut aussi dire que la vie confortable dont beaucoup jouissent autour de nous, autour de vous, dans cette ville, la réussite professionnelle que nous voyons dans cette ville, qui rend parfois le confort que nous souhaitons plus réalisable, cette réussite professionnelle, tout cela petit à petit commence aussi à vous attirer. Face à cela, vous êtes tenté, disons-le, à adoucir un tout petit peu votre engagement chrétien dans la vie. Non pas tout rejeter, bien entendu, mais devenir, disons, un peu plus souple par rapport à certains choix. Une foi qui permet à profiter pleinement de la ville de Bruxelles et de ses conforts. Bah, si cela en partie, en tout cas c'est vous ce matin, vous ressemblez, en partie en tout cas, des chrétiens d'arrière-plan juif qui se sont dispersés dans différents endroits de l'Empire romain au 1er siècle après Jésus-Christ. Ces chrétiens auxquels Jacques écrit sa lettre étaient d'abord à Jérusalem, la ville natale, mais très tôt dans l'histoire de l'Église primitive, ils ont dû quitter la ville de Jérusalem suite à une persécution qu'il y avait aux chrétiens, et maintenant ils se trouvent un peu éparpillés dans différents endroits dans l'Empire romain. Et Jacques les rappelle de leur origine juive et de leur situation actuelle dans ses salutations qui se trouvent tout au début, premier verset du chapitre 1. Jacques, dit-il, aux 12 tribus dispersées, salut! Et donc, est-ce qu'il suit tout au long de cette lettre, c'est une collection de différentes exhortations sur plusieurs sujets qui ont pour but de stimuler des chrétiens à ne pas diluer leur engagement chrétien, à ne pas avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église, si vous voulez qu'on parle comme ça. Jacques appelle une telle personne qui est comme ça, une personne partagée, à deux reprises dans sa lettre. Et donc ce matin, avec Jacques, nous allons parcourir les quatre premières exhortations que j'ai regroupées sur le dos de votre feuillet, vous allez voir le petit schéma, j'ai regroupées sur le thème de la maturité chrétienne. Donc, première exhortation, éprouvez, réjouissez-vous. Éprouvez, réjouissez-vous. La première exhortation, ce n'est pas difficile à comprendre, chers amis, n'est-ce pas, au verset 2. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Si vous êtes éprouvés, dit-il, réjouissez-vous. Considérez cela comme un sujet de joie. Mais cela heurte un peu, n'est-ce pas, je l'espère, en tout cas, à notre sensibilité, je dirais. Se réjouir dans la difficulté semble être vraiment un contresens, n'est-ce pas? Donc la question se pose naturellement, et pourquoi? Pourquoi dois-je me réjouir dans de telles situations? Qu'est-ce qui m'amènerait à se réjouir dans l'épreuve? Alors verset 3, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. C'est l'épreuve qui fait grandir dans notre foi. Ce n'est que lors de l'épreuve que nous apprenons la persévérance, chers amis. Je ne suis pas quelqu'un qui prend du plaisir à faire du jogging. Cela ne vient pas naturellement à Monsieur Orange de se mettre en basket et de se mettre sur les rues d'Auderghem et parfois au Louis-Saint-Pierre, si je suis vraiment en forme, même au Louis-Saint-Lambert. Mais lorsque je fais cela, je suis confronté tout de suite avec ce que c'est la persévérance. Lorsque je marche, jusque-là, je suis rarement confronté au désir de m'arrêter. Peut-être si je marchais de longs kilomètres, je peux imaginer que ce serait un peu différent et j'aurais envie de m'arrêter. Mais si je cours, d'habitude, à peu près après 15, 20, 25, 30 minutes, je suis confronté d'un désir irrésistible, je dirais, de m'arrêter. Je commence à ce moment-là à calculer si je peux faire face à la honte lorsque je rentre à la maison de confesser à mon épouse que je devais terminer la course en marchant. C'est ça ce qui traverse mon esprit. Et si j'arrive tout de même à continuer la course, malgré l'effort, malgré la peine, la fatigue, qu'est-ce que j'apprends? Bon, j'apprends la persévérance, bien sûr. Non seulement cela, mais à plus long terme, si je continue à faire cela, cette persévérance donne suite à une meilleure forme. C'est normal. Une capacité plus grandissante de persévérer pour plus de temps. De ne pas lâcher dès la première pente, si je cours, dès la première difficulté. Ce qui vaut pour la course vaut aussi pour l'épreuve dans la foi chrétienne. Ce n'est que lorsque les choses sont un peu plus difficiles dans notre vie que nous devons exercer, si vous voulez, notre foi. Que notre foi, un commentateur avait décrit ainsi, développe ses muscles. Et cela nous rend plus mûrs, continue Jacques, plus qualifiés, comme dit notre traduction dans notre foi. On pourrait aussi le traduire plus accompli. Et je pense que c'est surtout ce sens-là que Jacques vise. Mûr dans la foi, expérimenté, intègre, malgré les hauts et les bas de la vie. Donc ce n'est pas, j'espère qu'on voit cela, que les difficultés en soi sont réjouissantes. Loin de la Bible d'encourager une légèreté face à l'épreuve, chers amis. « Oh, aujourd'hui, je suis tombé, j'ai cassé mon bras. Chouette, ça !» Non, bien sûr que non. Mais c'est les difficultés qui présentent une occasion pour grandir dans la foi. Car cela demande une confiance grandissante en Jésus. Une détermination de retenir ses promesses, de me mener jusqu'au port. Et donc là, nous sommes loin, je pense que c'est clair, de l'évangile de la prospérité, n'est-ce pas? Loin des charlatans qui disent que si Dieu est pour nous, nous pouvons mener donc une vie de victoire, de confort, ici-bas. Non, les versets que nous avons lus nous apprennent explicitement que les chrétiens, tout comme les non-chrétiens, ne sont pas épargnés des vicissitudes de la vie. Ce n'est pas un manque de foi de devoir vivre avec non seulement la persécution, ce qui est le cas plus tard dans l'épître de Jacques, mais aussi avec la souffrance humaine dans toutes ses formes, la maladie, la pauvreté, l'échec. Et ça, chers amis, ça doit nous encourager, je pense, nous les chrétiens ici rassemblés. On priait dans ces locaux mardi dernier, et lorsqu'on se mettait à prier pour nos frères et sœurs, à même donner l'eau de la réunion de prière, on priait pour des chrétiens qui devaient faire face à des épreuves de tout genre. Il y avait quelqu'un qui prenait soin de sa maman avec la maladie d'Alzheimer. Il y avait quelqu'un d'autre en rétablissement depuis une chute. Quelqu'un d'autre avec une sciatique de plus en plus grave. D'autres qui sont en recherche de travail. D'autres avec des difficultés dans le couple, dans la famille. D'autres qui sont empêchés, même, ou une personne, de rendre un mémoire afin de pouvoir recevoir son diplôme. Ce sont des difficultés, des épreuves qui nous agacent. Mais c'est encourageant de savoir que cela n'indique pas que le fait de souffrir ainsi ne signifie pas que nous nous sommes éloignés du plan merveilleux de Dieu pour nous. Non, loin de là. À travers de tels défis, Dieu, dans sa main bienveillante et providentielle, pourvoit un moyen pour que nous devenions mûrs dans la foi, à un point où nous pouvons même se réjouir, tout en reconnaissant la peine qu'il y a dans la difficulté. Donc, si nous sommes éprouvés, nous dit Jacques, réjouissons-nous à travers ces épreuves, nous grandissons. Et je suppose qu'on peut arriver à la fin du verset 4 de notre texte en disant « Je ne suis pas encore à un stade où je peux dire qu'il ne me manque rien. Faut-il la peine donc que je continue dans la foi lors de ces épreuves ? Moi, je n'arrive pas pour le moment à me réjouir comme il me le dit. » Alors, deuxième exhortation, c'est laquelle ? Manque de sagesse ? Manque de sagesse ? Demandez-la. Si l'un de vous, verset 5, manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Quelle sagesse alors ici? Mais vous voyez, dans le contexte, c'est de comprendre ce qui m'arrive, ce qui se passe dans le monde, des hauts et des bas, à la lumière des promesses de Dieu dans sa parole, d'être capable de se réjouir malgré les circonstances de ma vie. Demandons-la à Dieu! À Dieu qui donne, le verset continue, à tous simplement et sans faire de reproches. Dieu, on voit ici, il ne joue pas à cache-cache. Dieu ne nous reproche pas pour notre manque de sagesse. Il prend du plaisir à nous donner de la sagesse. Que se passe-t-il lorsqu'un enfant s'approche d'un parent pour demander de l'aide, à comprendre quelque chose qu'il avait du mal à encaisser en classe, à l'école? Un problème, disons-le, en science. C'est le domaine où mes enfants ont plus du mal, il me semble. Bien que le parent soit peut-être inquiet, et si vous êtes parent, c'est peut-être le cas pour vous, inquiet du fait qu'il n'a pas saisi ce qui a été écrit, et bien qu'il aimerait savoir pourquoi son enfant n'a pas pu saisir cela en classe, était-il distrait? Était-il trop fatigué? Trop stressé? C'est normal qu'on pose ce genre de questions. Ce n'est pas pour autant que lorsque l'enfant s'approche de ses parents qui vont lui répondre « Tu rigoles? Tu penses que je vais aider pour ça? T'es bête ou quoi? Débrouille-toi! » Ok? Ou bien « Demande-moi dans une semaine, peut-être je serai mieux disposé à t'écouter à ce moment-là. » C'est comme ça qu'on réagit. Non, un bon parent, avec un enfant qui s'approche de lui en sincérité pour de l'aide, l'écoutera, l'aidera par la suite. De même, à l'opposé, Dieu, ses amis, il veut faire part de la sagesse, de sa sagesse. On peut être sûr de cela. Mais Jacques continue, verset 6, qu'il demande cette foi, cette sagesse, avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Donc ce verset ne doit pas être abusé pour manipuler les personnes sensibles à croire que c'est leur manque de foi qui font qu'ils ne sont pas guéris, qu'ils n'ont pas la richesse matérielle. Non, la promesse de donner, c'est de nous donner ce que Dieu nous a promis. Et ici, ce qu'il a promis, c'est la sagesse pour ceux qui la demandent. Mais il faut, dit notre texte, demandez cela de bon cœur, simplement, sans avoir un esprit partagé. D'avoir un œil sur Dieu, lorsqu'on lui demande quelque chose, tout en gardant un autre sur le monde pour satisfaire à mes besoins, c'est de traiter Dieu avec du mépris. C'est de dire, Bah, j'aimerais éventuellement ce que tu peux me donner, Dieu, la santé, le travail, le conjoint, mais toi-même, tu ne m'intéresses pas en tant que tel. Je ne te fais pas vraiment confiance. L'homme partagé, en fait, chers amis, se trouve aussi dans l'Église. Et pour ça, Jacques écrit à des chrétiens qui se trouvent dans des églises. Je peux donc fréquenter une église sans pour autant faire confiance que Dieu peut réellement pourvoir à mes besoins. Demander simplement, c'est de lui faire confiance que je peux suivre ce qu'il me dit, peu importe la difficulté, peu importe que cela me coûte. Quelques exemples, alors, pour nous aider à voir ce que cela signifie. Je dirais que ce sont des croyants de longue date qui ne sont pas encore baptisés, ou des croyants qui entament une relation intime avec un non-croyant, ou des croyants qui fréquentent l'Église régulièrement sans donner régulièrement de ses moyens pour soutenir l'œuvre de Dieu. Des exemples des personnes qui luttent d'un esprit partagé. Oui, Dieu, mais non, Dieu. Évidemment, il y a d'autres domaines, mais j'en cite que trois pour le moment. Si vous voulez, fais le grand écart. Ma fille, à la gym, elle sait faire ça. Mais quand je vois ça, j'ai toujours envie de pleurer. On dit, ne fais pas ça. Okay? Naturellement, ça fait extrêmement mal pour quelqu'un, n'est-ce pas? Mais fais le grand écart spirituel, cela fait plus du mal encore. Car comme cela, nous sommes comme les vagues de la mer, nous dit ce verset, bousculés dans toutes directions. Verset 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Et donc le dernier exemple que j'ai donné comme esprit partagé, donner généreusement, nous-mêmes, je pense à la troisième exhortation que nous voyons ici. Pauvres ou riches, soyons fiers. Pauvres ou riches, soyons donc fiers. Il semble que parmi beaucoup de ces chrétiens auxquels Jacques écrit, il y avait un certain homme qui était pauvre, expulsé de Jérusalem, se trouvait dans différents endroits de l'Empire romain, souvent donc en tant que réfugié. Et donc, il se trouvait dans le besoin matériel. Et cela amène Jacques à dire, aux frais de conditions humbles, verset 9, de tirer sa fierté de son élévation. De ne pas penser que sa condition humble dans cette vie signifiait quelque chose par rapport à son standing devant Dieu. Non, devant Dieu, ce croyant de moyens limités recevra, comme tout autre membre du royaume de Dieu, la couronne de la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment, dit-il au verset 12. Qu'il met sa fierté dans son élévation. Quel privilège d'appartenir à Christ. Tandis que le riche, verset 10, doit se montrer fier de son abaissement. Au lieu d'être fier dans ses richesses, lui doit faire le contraire. Il doit être reconnaissant à Dieu pour son abaissement. Dieu l'a abaissé pour que, humblement, tout comme les autres mendiants spirituels, il demande à Dieu du pain qui donne de la vie éternelle. C'est vrai, je pense que certains disent que ces versets parlent des riches non-croyants. Car plus tard, dans l'épître de Jacques, lorsque Jacques parle des riches, c'est bien des non-croyants qu'il vise. Et aussi, donc ici, à la fin du verset 11, il dit que le riche se flétrira dans ses entreprises, comme si cela, selon cette interprétation, parle du jugement à venir. Mais même si c'est un choix difficile, je pense que le contexte ici demande que nous comprenions qu'il est question toujours du croyant. Qui est riche, qui doit être conscient de l'aspect donc éphémère de ses richesses. À la mort, nos richesses matérielles ne comptent pas pour beaucoup. Vaut mieux donc être fier de nos richesses spirituelles qui viennent à travers notre abaissement lorsqu'on s'approche de Dieu avec humilité et dépendance. C'est une autre façon de nous rappeler que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas penser que nous pouvons à la fois être attachés à Dieu, à la fois être attaché à la richesse matérielle. Jésus le disait bel et bien, n'est-ce pas, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas servir Dieu et l'argent. Et au verset 12, Jacques revient au thème donc, de l'épreuve. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation ou à l'épreuve, car il s'agit du même mot employé au verset 2, épreuve et tentation. Après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie. Soyons fiers de cela. Soyons fiers de cela. Mais comme le mot pour épreuve porte aussi ce deuxième sens, celui de la tentation, cela amène Jacques à notre dernière exhortation de ce matin. Tentez, tentez, ne blâmez pas Dieu. Tentez, ne blâmez pas Dieu. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». N'est-ce pas sous la pression de l'épreuve, nous sommes tentés de douter la bonté de Dieu ?« Dieu, tu es vraiment bon, tu me donnes cela ?» Ou la mort d'un proche nous pousse parfois à douter de l'amour de Dieu ?« Tu m'aimes et cela m'arrive ?» La perte d'un emploi nous tente de douter la mienne bienveillante de Dieu, je suis ton enfant et tu prends soin de moi. Mais Jacques nous dit, sous pression, les amis, ne blâmez pas Dieu. Dieu ne peut pas être tenté par le mal, il continue. Et donc, ça va de soi qu'il ne désire pas produire de tel mal dans ceux qu'il aime. Il ne tente lui-même personne. Non, au contraire, chacun continue le texte, est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Donc l'exhortation de ne pas blâmer Dieu devient, nous voyons ici, une exhortation à ne pas céder à nos désirs, de croire ce que la tentation nous dit. Car céder à la tentation, c'est le péché. Et la tentation, donc, en soi, n'est pas le péché, mais céder à la tentation, oui, ça, c'est le péché. Le fruit du péché, c'est la mort. La mort spirituelle. Jacques, dans son style assez direct, nous rappelle du danger du péché. La mort spirituelle, le jugement de Dieu, séparation de Dieu. Ce n'est pas que chaque chrétien qui pêche et donc mort spirituellement, chers amis. Mais c'est un avertissement, toutefois, de ne pas penser que je peux, encore une fois, habiter deux mondes, Dieu et le péché, ou l'Église et le monde. Non, il ne faut pas avoir un esprit partagé. La suite de Jacques nous le dira de manière encore plus claire. Notre foi doit avoir un impact réel dans nos vies. Retourner au péché comme si rien n'a été, cela fait mauvais signe de la réalité de notre foi. Mais comment faire autrement alors? Si vous êtes parmi nous et vous vous dites, bah, écoute, je vois ce que je dois être, mais je suis loin de ça. Alors, c'est encourageant, je pense, qu'à la fin de ces exhortations, verset 17, Jacques nous rappelle que Dieu est un Dieu qui donne. Le Seigneur Jésus-Christ donne des dons à ses enfants. On peut se fier à cela, car en lui, il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Je retombe pour une dernière fois donc sur l'illustration d'un enfant qui s'approche d'un parent. N'est-ce pas triste que parfois un enfant doit apprendre à juger l'humeur de ses parents faut savoir si c'est le bon moment ou pas de lui demander quelque chose. Parfois, c'est OK, super. Parfois, oh, tu demandes ça maintenant, ça va pas. Et ton enfant dit, voilà. Et un enfant qui doit juger le moment, ça met une pression terrible, n'est-ce pas? Parfois, on demande et c'est OK, parfois, on demande et il se fâche. Et on ne sait pas à l'avance ce qu'on aura. Mais Dieu n'est pas comme ça, chers amis. Dieu donne toujours à ceux qui lui demandent. N'est-ce pas une bonne chose, cela? Et que donne-t-il, verset 18? Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité. Si au verset 15, nous avons vu que le désir de naissance spirituelle engendré par la parole de Dieu qui nous parle de la bonne nouvelle pour sauver des pécheurs. Être croyant en Christ, mes amis, c'est de bénéficier de l'œuvre de Christ, ce que Dieu, dans son immense bonté, a gracié. Et ce qu'il a fait pour nous, les prémices, verset 18, de ces créatures, c'était le cas à ce moment-là pour les premiers chrétiens, il fera aussi pour d'autres, qui s'approchent de lui par la foi, afin de devenir à leur tour aussi enfants de Dieu. C'est ça le plan de Dieu qu'il opère encore aujourd'hui. Et donc nous terminons, non pas dans le désespoir, bien que nous soyons confrontés par notre péché, par notre esprit partagé, non, nous terminons dans l'espoir de nous approcher d'un Dieu qui prend soin de nous, qui nous donne de la vie, qui nous donne de la sagesse, qui permet des épreuves pour que nous devenions mûrs et accomplis. Et si pour vous, ce n'est pas encore le cas que vous avez découvert ce Dieu qui donne, ce n'est pas trop tard pour vous. Votre péché non plus ne vous empêche pas, par sa grâce, de recevoir ce don de sa part, et cela à travers la parole de la vérité qui nous parle de sa grâce. Continuons à puiser cette parole et approchons-nous avec une confiance au Dieu qui donne de bonnes choses à ceux qui l'aiment. Oui, découvrons-nous, si nous sommes déjà des croyants, que Dieu est un Dieu qui nous donne de la joie de lui faire une confiance grandissante. Nous sommes appelés à cela et donc je vais prier que le Seigneur nous aide. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Seigneur, nous voyons le danger d'avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église, d'aimer à la fois toi et aussi l'argent, de demander des choses auprès de toi tout en pensant que du monde viendra d'autres choses. Et nous te prions de nous aider à grandir dans notre confiance, à laisser derrière nous cet esprit partagé. Et nous te demandons, comme tu nous dis s'il nous manque de sagesse, nous te demandons de pouvoir à nos besoins. Et donc, nous te demandons cela au nom précieux de Jésus. Amen.